première, Pedro. Dans le message dimanche dernier, nous évoquions une partie du psaume 103 qui nous parle de Dieu comme d'un père rempli de compassion et dont la bonté dure éternellement pour ses enfants. De merveilleux éléments de la personnalité de Dieu qui nous sont, qui me sont en tout cas, bien utiles. Moi si fragile, moi si souvent défaillant. Nous allons regarder un autre passage de la Bible ce matin, mais je relis quand même, en guise d'introduction, les quelques versets concernés pour que nous les ayons en tête pour la suite de la prédication. Psaume 103, versets 13 à 17. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. La compassion et la bonté de Dieu qui entourent la fragilité humaine, comme dans la structure de ce psaume. Merci Seigneur, j'en ai tant besoin, et peut-être que vous tous aussi. Et c'est avec connaissance de ce texte et des réalités qu'il souligne que 1000 ans plus tard, Jésus, homme et Dieu réunis en une seule personne, Jésus, Dieu fait homme, dira à la foule et à ses disciples les paroles suivantes dans l'un de ses fameux enseignements que l'on appelle le sermon sur la montagne, et dont je cite un extrait dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 43. Connaissant ce psaume, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. » Mais moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Inépuisable sermon sur la montagne, tant l'enseignement en est riche, et tant ce que nous avons à mettre en pratique peut nous paraître sans fin. Et soyons honnêtes, un peu trop immense pour nous. Mais comment Jésus peut-il vraiment attendre de nous, alors que nous sommes si fragiles, que nous nous comportions, et cette traduction que j'ai lue, la Bible du Semeur, insiste en disant que nous nous comportions vraiment comme des enfants de notre Père Céleste, ce que je comprends comme voulant dire de manière vraiment digne de notre Père Céleste. Vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Se comporter vraiment comme Dieu le ferait. Facile à dire, un peu plus compliqué des fois à mettre effectivement en pratique. Et ce n'est peut-être que moi qui suis défaillant, ou peut-être certains d'entre vous aussi des fois. Traduction plus littérale dira, peut-être plutôt, « Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Ce qui en fait n'est pas moins exigeant, car cela implique que si on ne se comporte pas comme les versets alentours nous le stipulent, nous ne sommes pas vraiment enfants de Dieu. En tout cas, notre comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu, n'est pas digne de notre Père Céleste. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve cela assez sévère et même décourageant. Allez, si je fais un petit sondage. Qui arrive à se comporter vraiment en enfant de Dieu, en toutes circonstances? Personne? Ah, je sais, on est timide, on n'ose pas lever la main alors qu'on y arrive évidemment tous facilement, et très facilement même. Le résultat du sondage où personne ne lève évidemment la main me paraît en fait assez parlant, non ? En agissant ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. Vous comportez vraiment comme des enfants du Père Céleste. Je crois que nous avons là un bon défi pour la rentrée. Nous avons là un bon défi pour la rentrée. Mais reconnaissons que pris sous cet angle, on ressent sûrement quelque peu ce que Jésus nous dit, expose, attendent de nous comme un fardeau beaucoup trop lourd, un objectif inatteignable, comme un mirage auquel on devrait, après lequel on devrait courir sans jamais pouvoir vraiment l'atteindre. Et j'avoue que l'idée me semble assez difficilement supportable. En y réfléchissant, mon avis personnel, mais vous avez le droit d'avoir un autre avis, et que Jésus a fait exprès dans ce sermon de présenter les choses, à première vue en tout cas, sous l'angle exigence. Sous l'angle exigence. Parce qu'il s'est mis dans la logique des gens et dans la logique des chefs religieux de l'époque, qu'il dénonce d'ailleurs largement dans son sermon, pour ce qui concerne leur attitude, leur religiosité. Et dans cette logique, Jésus dit, vous voulez faire des choses par mérite ? Pour obtenir des mérites, alors ne mettez pas la barre des exigences ici, mais mettez-la carrément là. Ne mettez pas la barre des exigences ici, mettez-la carrément là. Et en conséquence, toujours dans une logique religieuse du mérite, soit on se dit, ok, il faut encore aller plus haut. Bon, d'accord, je m'y attelle, je retrousse mes manches, je vais faire les efforts nécessaires. Sous-entendu, je vais finir par y arriver, à force d'abnégation et de sacrifice. Et on n'a alors pas vraiment compris ce que Dieu attend de nous, je crois. Soit on dit, mais Jésus, tu exiges vraiment ça de moi ? Tu exiges vraiment que j'arrive à m'élever jusqu'à ce niveau d'excellence ? Effectivement être enfant de Dieu. Mais je n'y arriverai jamais. Tu sais bien que je n'y arriverai jamais. Tu sais que j'en suis incapable par moi-même. Incapable sans ton aide, incapable sans ta grâce, incapable sans ta transformation. Et là, dans cette attitude qui abandonne toute velléité, qui abandonne toute illusion de mérite, de prouesse ou d'accomplissement personnel, pour reconnaître, dépendre totalement de l'assistance divine, je crois qu'on commence à tenir le bon bout. Tu mets la suivante, Pedro. Vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père Céleste. On peut aussi littéralement traduire la locution verbale par « afin que vous deveniez ». Le verbe est au subjonctif, ce qui donne alors une notion de changement, de progression. Et ça me rassure un peu, car Jésus permet alors un comportement qui petit à petit devient conforme à ce que le Père fait. Ce n'est évidemment pas une excuse pour du laxisme ou de la paresse ou de la désinvolture. Mais cela montre aussi par là qu'il connaît effectivement bien notre faiblesse humaine. Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfait comme lui. Cela ne peut donc pas être une exigence que Jésus, que Dieu, nous met sur les épaules. De ce que je connais de Dieu, lui, empli de compassion pour ses enfants, on l'a lu dans le psaume tout à l'heure, lui abondamment généreux en bonté pour ceux qui le craignent. De ce que je connais de Dieu, je ne peux concevoir ces mots de Jésus comme une exigence qu'il nous imposerait, mais plutôt une potentialité qu'il nous offre. Oui, car c'est, par contre, bel et bien, je crois, là où il veut nous emmener, quand même. C'est bel et bien l'objectif où il veut qu'il nous, où il veut nous emmener quand même. Il ne faudrait pas non plus, à tort, croire que Jésus ne fait que blaguer. Mais non, je ne vous demande pas ça, je ne vous offre pas ça. Jésus propose d'arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que je ne peux pas y arriver par moi-même que Jésus ne veut pas m'y emmener. Ce n'est pas parce que je ne peux pas y arriver par moi-même que Jésus ne veut pas nous y emmener. Oui, Jésus nous exhorte vraiment à vivre à l'exemple de notre Père céleste. Et avec son aide, avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est là où nous allons. C'est l'objectif de notre vie. Est-ce que ça interpelle et donne envie à quelques-uns parmi nous? Deuxième sondage où notre timidité prend encore trop le dessus. Aimez vos ennemis, nous dit-il alors. Mais comme j'aime à le rappeler, ce que Dieu demande des autres, il le met d'abord lui-même en pratique. Ce que Dieu demande des autres, il le met d'abord lui-même en pratique, et sans préjudice d'un jugement final, car chacun reste responsable de ses choix devant lui et de sa réponse à l'offre de grâce. Dieu aime ses ennemis. Dieu aime ses ennemis. Oui, lui, le premier, montre cet exemple. J'ai mis par exemple un verset dans l'Épître aux Romains qui le dit. Nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils. Lorsque nous étions déjà des gens sympas à son égard, non. Lorsque nous étions ses ennemis. Nous étions ennemis de Dieu, mais par amour pour nous et pour l'humanité, Dieu le Fils s'est incarné en Jésus-Christ et est venu sur terre pour nous sauver. Ainsi, à la suite et à l'exemple de notre divin Père, le fond du propos de Jésus est bel et bien de nous faire arriver à pratiquer l'extraordinaire. Si je reprends un des qualificatifs du verset 47 dans la traduction Semeur que j'ai lu, Jésus veut bel et bien nous faire arriver à pratiquer l'extraordinaire comme lui-même l'a fait. Ambitieux, non ? J'aime bien souligner quand. Bien, Dieu est toujours ambitieux pour nous dans son programme. Qui veut vivre l'extraordinaire? C'est une question. Qui veut vivre l'extraordinaire? Pour personne. Vraiment pas de chance à mes sondages ce matin. Pas de succès. Dieu cherche des gens ordinaires pour accomplir un travail extraordinaire. C'était le titre d'une méditation quotidienne de la parole que j'ai lue il y a quelque temps déjà. Et c'est vrai que quand on considère dans la Bible tous les personnages, la majorité en tout cas, sinon la totalité des serviteurs et servantes de Dieu, ce n'étaient que des gens ordinaires. Ce n'étaient que des gens ordinaires, rien de péjoratif ou de méprisant là-dedans, bien au contraire. Citons quelques exemples pour s'en convaincre. Moïse, le grand Moïse. Ouais, mais moi je suis pas un homme à la parole facile. Et c'est pas d'hier ni d'avant-hier, ni depuis que tu me parles, à moi, ton serviteur. J'ai la bouche et la langue pesante. Disait-il à Dieu pour lui faire comprendre que ça serait mieux que Dieu choisisse quelqu'un d'autre quand même. Gédéon, le grand Gédéon. Oui, mais ma fratrie, c'est la plus faible en Manassé. et je suis le plus petit dans ma famille. » A-t-il aussi rétorqué à Dieu qui l'appelait. David, le grand David, le plus petit parmi ses 7 frères costauds et forts, alors qu'il n'était qu'un enfant qui faisait juste paître le troupeau de son père quand Dieu l'a appelé. Jérémie, grand prophète Jérémie, même genre de problématique. Je ne saurais pas parler, je suis trop jeune. Et on pourrait évidemment multiplier les exemples. Et je finirai juste par les apôtres, les grands apôtres. Pierre et Jean, entre autres. En voyant l'assurance de Pierre et de Jean, par là des chefs du peuple et des anciens qui les écoutent, les observent, ils étaient étonnés, car ils se rendaient compte que c'était des gens du peuple sans instruction, préjugés méprisants ou en tout cas hautains de la part des autorités notables érudits du peuple à l'égard des gens ordinaires que Dieu avait choisis pour proclamer les premiers l'Évangile. Que des gens ordinaires, à bien des égards, sinon à tous les égards. Et nous sommes, nous aussi, pour la plupart, des gens ordinaires, avec un emploi, avec les mêmes occupations ou préoccupations que tout à chacun, avec des compétences pas toujours autant qu'on aimerait, avec un train-train quotidien. Mais l'important n'est pas ce que nous étions ou ce que nous sommes, humainement parlant. L'important est ce que Dieu propose de faire de nous, ou avec nous, ou en nous, ou par nous. C'est la suivante, Pedro. Et quel genre de choses extraordinaires? Non, il doit en avoir une autre avant. J'ai raté, voilà. Quel genre de choses extraordinaires? Si je reprends notre passage, à contre-courant de ce qui peut assez légitimement, ou en tout cas assez naturellement, être pensé ou promu. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Jésus parle d'un niveau bien plus extraordinaire. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Certaines versions, comme celle que j'ai lue tout à l'heure, ont d'autres mots entrecrochés, des mots qui sont désormais souvent considérés comme des rajouts tardifs, mais des mots qui soulignent bien l'extraordinaire attendu. Alors je les lis aussi. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et Jésus donne deux illustrations concrètes du quotidien. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Ce que tout le monde fait ou est capable de faire naturellement, c'est ordinaire. Il y a peut-être des choses plus ordinaires les unes que les autres. Et ce que Jésus dit, c'est qu'un chrétien devrait agir ou réagir de façon extraordinaire. Si on traduit le mot grec d'origine, on aurait plutôt « que faites-vous de plus ?» Sous-entendu « de plus que tout le monde, de plus que les autres ». Un chrétien devrait agir ou réagir en faisant plus, en faisant mieux que les autres. Voilà ce que nous dit Jésus. Mais Jésus, pour y arriver, accorde-moi ton aide, que ta grâce me soutienne, que ton Saint-Esprit me transforme. Nous ne pourrons en effet pas avec nos propres forces, mais avec Jésus, nous pourrons. Il ne s'agit bien évidemment pas de faire les choses pour se montrer et frimer, mais mais agir et réagir à la gloire de Dieu, se comporter vraiment comme des enfants de Dieu, se comporter comme Dieu le ferait. Rien de moins. Être sel et lumière, en quelque sorte, avec, je le répète, l'aide, la grâce, la transformation que seul Dieu peut donner et faire. Je crois que nous avons là un bon programme pour la rentrée. Je crois que nous avons là un bon programme pour la rentrée. Alors ces derniers temps, j'ai eu plein d'anecdotes personnelles à ce sujet. Le Seigneur m'a testé plusieurs fois et je n'ai pas toujours été à la hauteur. Je les donne juste pour, à titre d'illustration, même si ça reste effectivement anecdotique. On a évoqué des sujets beaucoup plus lourd, beaucoup plus grave ces derniers temps, mais peut-être que ça aide quand même à situer dans nos quotidiens ce que ça peut être, ce genre de choses. D'abord, il y a une quinzaine de jours, alors j'ai pas été victime de persécution, mais d'une tentative d'arnaque. Ça vous est peut-être déjà arrivé. On cherchait une voiture sans permis à acheter pour Vincent, parce qu'à la rentrée, il n'y a pas de bus pour aller là où il commence son apprentissage. Et il y avait une annonce pas mal sur un site internet très connu. Oui, elle est encore disponible. Quand est-ce qu'on peut aller la voir? Ah là, je suis en vacances une semaine, dit le gars. Et puis, j'ai d'autres personnes intéressées. Le mieux, c'est que vous la réserviez sur le site via le paiement sécurisé. D'accord. Ah mince, ça dépasse le plafond de paiement de ma carte bancaire. Ils sont malins, les arnaqueurs. Hein. Ah, comment on peut faire alors? Ah bah, je peux vous envoyer mon RIB, qui me dit, et puis bon, je vous donne aussi copie de ma pièce d'identité, comme ça, vous serez en confiance. Vous versez un petit acompte. Ok, d'accord. Bref, je vous passe les détails. Et par divers petits éléments qui ne collent pas vraiment, je deviens soupçonneux quand même, et au final, évidemment, je me rends compte que c'est une arnaque, et qu'il y a une usurpation d'identité. C'est une vraie pièce d'identité, mais c'est évidemment pas la sienne. Dans le but de nous piquer la compte. Ouf. Merci Seigneur de nous en avoir protégés. Mais je dois avouer que ma première réaction de chrétien a évidemment été de mépriser cette personne. Et c'est plutôt l'envie de demander à Dieu de le maudire, en tout cas de le punir, ou de lui faire arriver aussi d'être victime de quelque chose que j'avais d'abord en tête et dans le cœur. Vous aimez seulement ceux qui vous aiment. Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Et priez pour eux. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Plutôt, j'avais pas vraiment envie. Seigneur, aide-moi à réagir comme toi tu le ferais. Que dois-je faire maintenant? Alors j'aurais bien sûr simplement pu faire le mort, silence radio, ne donner aucune suite. Mais quand le gars m'a relancé pour savoir si j'avais fait le virement, j'ai pas pu m'empêcher de lui répondre pour le titiller. Vous avez pas reçu le virement? Bizarre. Peut-être que vous êtes victime d'une arnaque. Et ensuite, pas avec méchanceté, mais j'en étais moi-même étonné, avec compassion et bonté, comme mon Père Céleste, et c'est Dieu qui a changé mon cœur en la circonstance pour cette personne, il m'avait vraiment mis à cœur pour que cette personne change, et dans un mélange de tristesse et d'urgence, je lui ai aussi écrit « Cher arnaqueur, escroc, voleur et menteur, j'avoue que j'ai du mal à vous bénir, mais néanmoins, sachant ce qui vous attend, je ne peux que demander la grâce de Dieu pour vous avant qu'il ne soit trop tard. Puisse-t-il vous faire la grâce de changer votre cœur pour que vous vous détourniez de vos pratiques condamnables? Car sinon, ce sera dramatique et je vous plains. » Et je lui ai mis quelques versets sympathiques, j'espère interpellants, appelant le coupable à abandonner sa voie et à revenir à Dieu qui aura compassion de lui. rappelant aussi les deux destinées éternelles possibles, châtiment éternel ou vie éternelle, et ce genre de choses. À lui de choisir, pendant qu'il est encore temps, le voilà placé devant ses responsabilités, et désormais cela lui appartient et appartient à Dieu. Mais que le Seigneur le bénisse en le sauvant. Telle est en tout cas ma prière pour cet homme. C'est vrai que pour l'instant, il m'a juste répondu à un message incendiaire de mépris et de méchanceté, mais bon, que Dieu fasse son œuvre en lui. Ce n'est pas un exploit de ma part, hein. Ma réaction première est loin d'être glorieuse, quand même pour un pasteur. Mais Dieu a enlevé toute amertume en moi et je l'en remercie. Et je vous remercie de vos prières fraternelles, de votre compassion, de votre bonté aussi mutuelle à l'égard, à l'image de notre Père Céleste, pour que chacun et chacune, nous prions aussi les uns pour les autres, pour que nous grandissions à son image. Mais bon, comme au final, je n'avais pas subi de préjudice personnel, je peux reconnaître que ce n'était pas si difficile que ça, finalement. Donc, deuxième exemple, si tu mets la suivante, Pedro. Début de semaine, j'ai eu le droit à un autre test, en allant chercher une autre voiture, une vraie scooter, suite à une vraie annonce. J'ai eu un accrochage sur la route, avec un camion dans un bouchon au niveau d'un péage. Vous savez, quand cinq voies se rétrécissent en une, en pas longtemps, alors ma conviction est que c'est le camion qui était en tort, il venait de l'arrière, et en essayant de me doubler, il n'y avait pas de place, il a accroché ma remorque. Moi, j'ai quasiment rien, mais lui, pare-choc arraché, portière très abîmée, etc. Mais comme j'ai mal rempli le constat, et malgré l'explication détaillée des circonstances, pour le moment, l'assurance me déclare responsable. Je me suis fait avoir. Et comme disait Calimero, c'est vraiment trop injuste. Surtout quand ça me concerne et que j'ai à supporter un préjudice personnel. Quand vous appelez les assurances, hein. Les gens sympas, c'est toujours ceux qui font des devis et qui vous encouragent à prendre un contrat chez eux, mais quand vous êtes au service sinistre, c'est plutôt les sinistres, justement, qui sont au bout du fil. Hein. Ils m'énervent. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Aimez vos ennemis, bénissez, faites du bien, ah ouais, c'est vrai, j'avais encore oublié. Ou plutôt, j'avais encore pas trop envie. Évidemment, bien peu de choses comparées à d'autres, hein. On peut en sourire. Mais je déteste par principe être victime d'une injustice. Ah là là, ce pasteur, il n'est pas vraiment à la hauteur. Hein. On va finir par connaître tous mes défauts. Non, non, rassurez-vous, j'en ai plein d'autres. Et dernière anecdote, jeudi dernier, je suis en contact fréquent avec le fournisseur des panneaux solaires et autres équipements que j'ai installés chez moi, sur ma maison, et duquel j'essaye obstinément, désespérant d'obtenir le certificat de garantie. Comme j'ai eu des pannes, ça me semble important que je l'obtienne, cette garantie que j'ai payée. Et ça fait plus d'un an que je réclame sans cesse le certificat. Et donc là, la semaine dernière, je lui ai envoyé un message un peu impatient, et il me rappelle le lendemain. Comme j'étais déjà au téléphone avec quelqu'un, il est tombé sur mon répondeur qui dit « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de François Médori, pasteur de l'église, blablabla. » Et donc quand il me rappelle, et on discute le truc, il dit « Mais dites-moi, monsieur Médori, vous êtes pasteur ?» Voilà, et on a eu l'occasion du coup, un court témoignage, un court partage par rapport à, cette, à la foi. Et quelle sera la suite, mais en tout cas, je remercie le Seigneur de, alors que ce n'était pas nécessairement mon état d'esprit du tout et ma préoccupation première, de pouvoir avoir eu cette occasion de témoignage, et du coup, c'était un encouragement. Je ne sais pas si je remercie encore le Seigneur d'avoir eu ses pannes et ses problèmes de garantie, mais disons que lui, il a permis. Pas encore eu le certificat, non, ça va venir, ça va venir. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Aimez, bénissez, faites du bien et priez pour toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en interaction. Ah oui, c'est vrai, j'avais encore oublié. Voilà, malgré ces petits déboires, encore une fois, je souligne qu'il y a bien des choses plus dramatiques, et vous le savez. Je suis reconnaissant envers le Seigneur de ce que, petit à petit, et des fois c'est vraiment très petit à très petit, parce que je ne suis pas très coopératif et pas très proactif, le Seigneur me transforme et m'aide à agir et réagir à sa gloire. Un petit peu. Et c'est fou comme c'est extraordinaire et comme c'est un programme de vie qui est réjouissant, gratifiant, apaisant. Vous avez sans doute dû l'expérimenter vous aussi. Les occasions de rater sont nombreuses, mais les occasions de grandir aussi. Prions pour que le Seigneur nous rende plus alertes, non seulement de nos obligations de chrétiens, mais surtout de nos privilèges et opportunités de chrétiens, d'enfants de Dieu. Ça commence certainement par une prise de conscience et une volonté chaque matin de briller pendant la journée, d'être source de bénédiction comme Dieu nous le demande et nous le propose, en saisissant bien évidemment à chaque instant sa compassion et sa bonté, en laissant l'Esprit nous animer, nous transformer à son image. Dernier sondage. Qui de vous veut vivre une vie extraordinaire? Ah, il y a quelques mains, c'est bien. Que le Seigneur vous bénisse en ce sens. Amen.